putain. Fait que là, j'ai découvert. Le Seigneur, il révèle toujours des choses. C'est tellement le fun, l'esprit qui nous montre des choses. Tu sais, après avoir étudié, j'ai étudié la parole beaucoup, là, tu sais, j'ai eu des bons professeurs, on va dire. Puis, il n'y a rien comme quand c'est l'esprit, là. Puis, là même, j'ai découvert dans Hébreu des liens avec des passages qu'on croirait jamais que ce serait de même. Fait que. Tu peux passer là. OK. Le son ne sera pas interrompu par ton passage. Fait que. J'ai intitulé mon message. Si vous n'êtes pas bon, vous êtes à la bonne place. En Christ. On va aller dans Hébreu 2. Ça va être. On va avoir quatre textes qui ont un lien, tu sais, qu'on pourrait ne pas penser au départ. Il est écrit à. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom, mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a donc également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » On va prier là-dessus. Pour que le Seigneur nous éclaire. Seigneur, merci pour que c'est toi qui as la puissance sur toute chose. Tu as anéanti la puissance du diable, la puissance de la mort. Et maintenant, on n'est plus soumis à la mort, mais on est soumis à la vie en toi. Seigneur, je te prie d'éclairer les esprits par ton esprit, nous enseigner nous-mêmes, puis fortifié dans l'enseignement de ta parole. Je te prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc là, on a plusieurs passages qui sont cités, là. Puis, il y a plus que ça, là. Dans la parole de Dieu, tu sais, maintenant, on a des versets dans la parole de Dieu puis des chapitres, puis c'était pas ainsi au départ. Ça a été mis par après, puis on considère pas que ce soit inspiré de Dieu, les versets en tant que tels, puis diffèrent de diverses traductions, des divers langages, langues, puis tout ça. Donc, quand on citait la parole de Dieu dans le passé, on le citait en citant un passage que la personne pouvait replacer. Il dit, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il citait ce passage-là, comme le psaume 22, exemple. Fait que, tu sais, il pouvait pas dire c'est le psaume 22, verset 1, là, parce que ça existait pas. Puis, si on continue dans notre texte, mais c'est intéressant d'avoir étudié ça aussi. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, il est écrit dans Jean 3, 8, celui qui prêche est du diable, car le diable prêche dès le commencement, le Fils de Dieu. Apparu pour détruire les œuvres du diable. Je crois que le premier pécheur, ça a été le diable, avant Adam et Ève. Puis, c'est lui, c'est sa domination, pour ainsi dire. Il est écrit, tu sais, dans Hébreu, celui qui a la puissance de la mort. Je crois que le verset peut être traduit, la domination, comme c'est comme, pour ainsi dire, l'empereur de la mort. Ceux qui sont dans la mort le suivent. Et c'est ça que je crois qu'il veut dire par la puissance de la mort. Puis dans Apocalypse 12, 10, il est écrit « J'ai entendu du ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui l'accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc le rôle de Satan qui nous accuse, parce que c'est sa domination, la mort, l'accusation, la loi qui était sur nous auparavant. Le verset dans Hébreu continue en disant « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est nous, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, il a changé, excusez, il a changé la domination de la mort par la domination de la vie en lui. Puis, là, c'est là qu'on va s'intéresser à ça aujourd'hui, c'est qu'il a souffert lui-même, il sait ce que c'est d'être tenté, il connaît notre souffrance, lui-même a été, on va dire, Satan a tenté de l'accuser de toutes sortes de manières par les Juifs. Puis, on va voir, justement, les citations qu'on a vues un peu plus tôt. Il y a trois citations. Donc, la première, « J'annoncerai ton nom, mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Il nous appelle frères. C'est rare qu'on appelle Jésus, c'est notre frère. Puis c'est factuel, c'est le cas à 100%, c'est notre frère. Puis, il l'annonce dans le cadre du psaume 22 que j'ai parlé tout à l'heure. Fait que, on peut tourner là, c'est le deuxième texte d'aujourd'hui que la parole nous cite. Puis, je pense que ce serait une bonne chose de lire à partir de... « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça va nous donner vraiment une référence. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est hébreu, il cite ça, mais il cite pas ça juste à cause de ce qu'il nous a cité. Je crois que c'est une référence. Il nous dit, allez voir là. Allez voir, puis vous allez voir pourquoi je dis ça dans l'hébreu. Donc, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a parlé un des derniers mercredis à propos de la Pâque, que c'est les souffrances de Christ qui étaient d'abord annoncées longtemps d'avance. Pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés et se confiaient en toi. Il n'était point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi la gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma gorge se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains, je pourrais compter tous mes os. Ils observent, me regardent, se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte de mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions, délivre-moi des cornes du buffle. Puis là, il va citer ce qu'on voit dans Hébreu. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc, il nous appelle frères en lien avec tout ce qu'on a vu là. Donc, on est ses frères par la souffrance aussi qu'il a vécu. Il est semblable à nous, puis nous aussi, on vit des choses semblables de diverses manières. Puis c'est ce que Hébreu 2 nous dit. On est rendu semblable à lui à cause de ça. Il a été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, comme il est écrit. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, il a été persécuté, il a été incompris, il a prié jusqu'aux larmes, puis jusqu'au sang. Et plus loin, il a été traité injustement, Donc, il nous comprend à tous égards. En tant que chrétien, c'est ce qu'on s'attend, on va dire, à subir, à vivre. Puis, l'autre passage qui cite, en fait, il cite deux références qui sont en même place. Donc, il cite, j'avais fait un témoignage, je l'invite sur Ésaïe 8. Puis, il cite Ésaïe 8. Puis, ça a été surprenant pour moi de découvrir ça. On va tourner là. Excusez. Donc, Ésaïe 8, Ésaïe 8 et 9. Parce que c'est comme la fin d'Ésaïe 8, pour ainsi dire. Donc, mettons verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. C'est intéressant encore, Christ qui n'arrête pas de dire que c'est lui l'Éternel, là, encore une fois, en disant la pierre d'achoppement, le rocher de scandale, qui est attribué à Christ plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Donc, encore une fois, on voit Christ dans ce passage-là, puis ça continue à verset 17, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. J'espère en l'Éternel, c'est la citation qu'Hébreu a pris. Des fois, les citations ne sont pas exactement pareilles dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, puis c'est normal. Il citait une traduction probablement, fait que le texte n'est pas exactement pareil de la citation à ce qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est normal. Il continue en disant, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Puis là, on a un texte intéressant ici, à la loi et au témoignage. C'est-à-dire à la loi de Dieu, au témoignage de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays. Le peuple sera errant, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et il tournera les yeux en haut. Quand on oublie Dieu et la parole de Dieu, c'est ce qui peut se passer. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Puis là, ça devient de plus en plus intéressant. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc, ceux qui ont oublié Dieu, ceux qui n'étaient pas spirituels, si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc, Jésus est allé avec ceux qui allaient bien spirituellement et ceux qui abandonnaient Dieu puis qui étaient pas spirituels. Au contraire, mettons, des prêtres là, du temple, il est allé vers les païens, il est écrit en territoire des gentils, là. Ça c'est les païens. Donc, il aurait pu aller vers ceux que ça allait bien ou ceux qui ça pourrait aller bien ou tu sais complètement vers le centre de ceux qu'on s'attend au ski. Pantoute, c'est pas là qu'il a été. C'est cité dans Matthieu 4, 12 à 17, là. Notre autre texte. Donc, ça, c'est après la tentation. Après la tentation, Christ, il n'est pas... Il n'est pas allé vers les sacrificateurs. Il n'est pas allé à quelque part qu'on se serait douté, ce qui est intéressant. Hein. Tu sais, Satan, il est allé tenter vers chapitre 4 au début. Puis, Jean a été livré, hein, verset 12. Jean-Baptiste, là, et Christ, il devait pas être bien, là, tu sais, son, on va dire, un des seuls qui comprenait ce qui se passe, il est livré aux Romains pour être tué plus tard. Puis, il s'en va de Nazareth, puis il vient demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon, selon verset 13, de Zabulon et de Nephtali, deux tribus d'Israël, pas ceux qui sont réputés pour avoir fait des très bonnes choses. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zébulon et de Nephtali, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, au lieu d'aller vers ceux que ça allait bien, il s'en va vers ceux que ça va mal, puis pas ceux qui sont spirituels, pas ceux qui voulaient vraiment tout savoir de Dieu. Tu sais, quand ça va mal, là, puis qu'on pense qu'on n'est pas bon, là, justement, comme le titre du message, c'est qu'on est à la bonne place quand on constate notre pas bonneté pour accomplir ce qu'il veut. Puis c'est là, d'ailleurs, si on continue, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quand il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon. Donc, il prend les apôtres, il leur dit « Suivez-moi. » Puis, tu sais, ça continue, il s'en va voir, il s'en va choisir ses apôtres. Là. Encore une fois, là, « OK, vous autres, vous êtes assez pas bons pour me suivre. » Fait que, tu sais, quand il pense, c'est... il aurait pu dire, OK, on va aller prendre le souverain sacrificateur, les plus hauts sacrificateurs, je sais pas, Hérode, là, peut-être je vais claquer le doigt puis il va se convertir ou quelque chose de même. Je vais aller chercher des pas bons puis ils vont se convertir puis ils vont me suivre. Là. Fait que, tu sais, quand on n'est pas bon, on est à la bonne place dans le Seigneur. Pas dans le sens d'être pas bon puis pas vouloir le suivre, mais d'être pas bon puis de se voir comme « Oh wow, ouais, moi j'ai tellement besoin du Seigneur pour, pour quoi que ce soit. Je fais partie d'un peuple qui n'a pas imploré le Seigneur, puis c'est ça. Là. On, de loin, depuis longtemps, on ne cherche pas le Seigneur. On n'est pas de loin son peuple initial, on va dire. Mais c'est ça, il est allé dans le territoire des gentils. Si on revient dans Ésaïe 8, Ésaïe 9, là, maintenant, là, c'est la continuité du texte. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Puis, je pense que ça peut être intéressant de voir c'est quoi la journée de Madian. La journée de Madian, ça va être dans Juges 7. C'est versets 20 à 22. Excusez. C'est Gédéon. Probablement que là, certains vont replacer ça. Gédéon, c'était le juge qui était peureux, on va dire. Il a demandé plusieurs signes de la part de Dieu. Faut que, okay, là, si c'est toi qui me parles, faut que la toison soit sèche. Puis après ça, OK, là je crois pas tout à fait encore. Là, faut que la toison soit mouillée, etc. Puis, tu sais, au départ, c'était celle-là qui se cachait chez eux pour cribler le grain, là. Chose qu'on devait faire à l'extérieur, mais il y avait trop peur du monde, des ennemis qui étaient là. Donc, tu sais, on avait quelqu'un qui était pas bon, on va dire. Là. Fait que verset 20, là, on aurait pu lire tout le chapitre, là, mais grosso modo, là, il y a une grosse armée Puis au départ, le Seigneur, il dit, je veux pas être glorifié dans une grosse armée, on va réduire le nombre de notre armée. Il réduit de plusieurs manières jusqu'à ce qu'il devienne seulement 300 contre une armée largement supérieure en nombre. Donc, le Seigneur voulait être glorifié dans ça. Puis verset 20, les trois quarts sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche des flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. C'est un stratagème de la part de l'Éternel. Ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à leur place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit tourner l'épée contre les uns et contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethshitta et à Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Des endroits qu'on connaît tous par cœur. Excusez. Donc, tu sais, eux autres, ils ont rien eu à faire, là. C'est comme l'Éternel a combattu pour eux, comme tout, là. Ils ont pas... OK, on est juste 300, il y a un paquet d'ennemis, puis là, l'Éternel les fait tirer l'épée les uns contre les autres. Il n'y a pas de bataille, là, c'est juste comme les ennemis s'entretuent, puis ils s'en vont fuir jusqu'à ces endroits-là qu'on connaît tous par cœur, là. Fait que... Mais c'est ça, notre texte, c'est la même chose. Puis la vérité ultime de notre texte, tu sais, c'est plus que les choses qui étaient pour se passer dans le temps d'Ésaïe. Donc, on était rendu à la journée de Madian. Donc, le joug qui pesait sur lui, c'est le péché, c'est la loi qui était sur nous. La verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Christ parle de la loi qui était sur nous, la mort qui était sur nous. Et maintenant, il les a brisés, puis maintenant on a la vie. Il est écrit, car toute chaussure comporte de la mêlée, et tout vêtement guerrier sera roulé dans le sang, ils seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Donc, ce passage qui signifiait particulièrement une victoire, décisive, parfaite, sans équivoque, une victoire pour toujours. Donc, quelque chose qu'on a déjà, on a la victoire. Donc, c'est peut-être pas tout à fait écrit de la manière la plus claire dans le verset 4. Mais les commentaires, on va dire, nous aident à comprendre un peu où c'est qui s'en va avec ça. Donc, il continue à verset 5 en disant, car un enfant nous est né. On connaît ce passage-là. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller du puissant, père éternel, prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, c'est là où qu'Hébreux 2, il nous envoie dans le texte de la parole. Il nous envoie dans le psaume 22, les souffrances de Christ. Puis à Ésaïe 8 et 9, comment Christ se dévoile vers les pas bons, on va dire, vers les peuples qu'il ne cherchait pas. Puis il donne la victoire parfaite. Il nous donne la justice parfaite. Il nous comprend dans nos souffrances, même si c'est lui qui a gagné toute la victoire. Puis maintenant, on vit éternellement dans une victoire. Donné à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David. C'était pas ce qu'on voyait de ce temps-là. Et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Amen.